France Inter. Parfaitement autodidacte, Daniel Templon est devenu l'un des galeristes les plus célèbres de France. En 1966, il donne des cours de PS et devient correcteur aux Lettres françaises, la Revue d'Aragon, pour payer la location de sa première galerie rue Bonaparte à Paris dans le sous-sol d'un antiquaire. Il devra attendre plusieurs années pour acquérir le rez-de-chaussée, puis les espaces emblématiques qui sont toujours les siens vers le centre Pompidou. À l'origine des premières expositions des artistes français, Boltanski, Benn, Venet, Alberola ou Le Gac, il est aussi celui qui montra pour la première fois en France les œuvres des Américains Judd, de Kooning, Serra, Basquiat, Haring ou Schnabel, et tout le monde n'est pas américain dans cette liste. Bravo, vous avez gagné. D'abord passionné par la musique, Daniel Templon découvre les artistes émergents du pop art dans les années 70 à New York et crée en 72 avec Catherine Millet la célèbre revue Art Press. Optimiste, tenace, éclectique sont des mots qui reviennent souvent dans la bouche de ceux qui parlent, de celui qui a aussi créé et dirigé le magazine Art Studio. Il expose en ce moment les artistes Hervé Di Rosa, Prune Nourry, René Wirtz et François Rouen dans ses galeries de Paris, Bruxelles et New York. Et le Grand Palais met à l'honneur en ce moment la japonaise Chiharu Shiota, représentée par notre invité dans une grande exposition intitulée The Soul Trembles, les frémissements de l'âme. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Daniel Templon.
Bonsoir Eva.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
Le soulier de satin.
De Claudel.
Oui.
À la Comédie Française.
À la Comédie Française, qui a été...
Il paraît que c'est extraordinaire.
Un moment assez rare. Je vais à l'opéra 15 fois par an, mais ce soir-là, ça a surpassé les plus belles émotions de l'opéra. D'abord parce que le texte de Claudel est absolument prodigieux. C'est un tour du monde sur 30 ans, mais c'est quand même un tour du monde. C'est un tour de la nature humaine. Ça parle des colonies, ça parle du racisme, de la conquête de l'Amérique dans tous les sens du terme. Mais tout ça est mélangé avec une histoire d'amour qui s'étale sur 30 ans et qui se termine évidemment comme... toutes les grandes histoires qui font rêver, pas toujours très bien, mais on passe quand même 7 heures sans une seconde d'ennui. Ça n'est que de la fascination. Il faut naturellement rendre hommage à Eric Rouff qui a fait un travail là exceptionnel.
Alors, plus on est connu et l'on a de pouvoir, plus on a d'ennemis. Est-ce que les critiques ou attaques rencontrées tout au long de votre carrière vous ont atteint ?
Alors, les critiques, dès qu'on fait quelque chose... on est critiqué.
C'est Clémenceau qui disait « N'ayez pas peur de vous faire des ennemis, si vous n'en avez pas, c'est que vous ne faites rien ».
Exactement. Alors là, j'adhère complètement avec cette formule. Dès que vous vous élevez un petit peu au-dessus de l'anonymat, vous devenez une cible. Alors si c'est... parce qu'on admire ce que vous faites, c'est formidable, mais si on vous jalouse, et dans tous les métiers du monde, on est jalousé. La vie, c'est quand même une compétition, d'abord avec soi-même, mais c'est aussi une compétition avec les autres. Donc, je ne sais pas si j'ai réussi, mais l'année prochaine, j'aurai 60 ans de galerie, donc 60 ans de carrière. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à être actifs et intéressants après 60 ans dans le même métier, la même profession et donc la même passion ? Donc si vous voulez, ces critiques, ça m'indiffère totalement qu'ils essayent d'en faire autant. Et puis, voilà.
Alors justement, on vous connaît pour votre ténacité, votre obstination, votre force de travail, votre optimisme. Vous n'êtes jamais découragé ? Vous ne l'avez jamais été ?
Non, non. C'est peut-être, si j'ai une qualité, c'est peut-être celle-là. Certainement la galerie qui aurait exposé le plus grand nombre d'artistes étrangers. J'ai pris Jones, Rauschenberg, Liechtenstein, Andy Warhol. Bon, je pourrais en citer encore d'autres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
On le fera après.
Mais je me bats encore aujourd'hui pour... essayer d'améliorer la place, la vision internationale, la vision que les pays étrangers ont de l'art français. Nous sommes sous-évalués. Alors, nous n'avons qu'à nous en prendre à nous-mêmes. Alors, je ne sais pas si on abordera le sujet, mais nous sommes quand même un peu responsables de ce qui se passe aujourd'hui, de la situation dans laquelle se trouvent nos artistes français.
On parle aussi à votre sujet, Daniel Templon, d'une légendaire franchise. Est-ce que vous préférez être aimé ou respecté ?
C'est François Mitterrand qui disait que le pouvoir, c'était pas fait pour être aimé, c'était fait pour être craint.
Vous aimez c'est... être craint ?
Non, je cherche pas à être craint, mais si... Encore une fois, si vous êtes relativement à l'aise dans ce que vous faites, à l'aise dans vos résultats, quand vous regardez dans la glace, que je ne fais pas au-delà de... des moments du rasage, je dis oui, j'aurais fait depuis toujours le maximum pour exercer le mieux possible mon métier, c'est-à-dire de mettre en valeur les artistes que j'aime, que j'ai choisis, que je veux exposer, que je veux faire connaître, à qui je veux donner à la fois prestige et valeur financière.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Templon, vous avez reconnu tout de suite ce qu'on diffuse, c'est le générique de l'émission Pour ceux qui aiment le jazz qui était diffusé sur Europe 1 le dimanche soir, animé par Franck Thénault.
Et Daniel Chipaki.
Oui, et ça a fait votre éducation, puisqu'avant de vous intéresser à l'art, c'est le jazz qui en pourra porter
vos
suffrages.
Oui, parce
que
le premier plaisir que j'ai eu, c'était d'écouter la radio dès l'âge de 14 ans. Vous savez, c'était à l'époque où les transistors venaient d'être découverts. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire le soir quand vous êtes au lycée ? Bah, c'est écouter de la musique. Et à l'époque, il n'y avait pas encore France Musique, ou alors je ne le connaissais pas. Donc, j'écoutais Europe numéro 1 de Franck Thénault et Daniel Filippaki. Et vraiment, j'étais très compétent. Vous pouvez me faire passer des morceaux. Ça s'appelait le Blindfold Test. Et je reconnaissais presque toujours qui étaient les musiciens. Voilà.
Daniel Templon, vers 16 ans, vous intéressez après le jazz au répertoire classique grâce à un disque de la 6e symphonie de Beethoven qu'on entend ici par l'Orchestre Philharmonique de Berlin dirigé par André Cuitens. Et vous êtes devenu un fou de musique classique et d'opéra.
Oui, alors ça ne s'est pas fait tout de suite parce qu'après le jazz, je suis passé à la musique contemporaine. Donc c'était déjà Boulez, Stockhausen, Messiaen et puis des musiciens encore plus... pointu, et je suis même allé au festival de Royan pour écouter ce qu'il y avait de plus révolutionnaire à l'époque. Et puis après, je suis passé à la musique classique grâce à France Musique et à cette émission historique maintenant, le dimanche après-midi, où c'était Bourgeois, Panigel, Goléa, voilà. Et c'était... choisir parmi différents interprètes la meilleure version. J'écoute toujours, quand je peux, le dimanche après-midi, cette émission historique. Et j'ai appris vraiment la musique, entre guillemets, hein, parce que je ne sais pas jouer au clair de la lune au piano, mais je pense que l'oreille n'est pas mauvaise. Je distingue très très vite, d'abord les compositeurs, mais aussi les versions qui sont, à mon sens, les meilleures. Il m'est arrivé, il n'y a pas très longtemps, quelques années seulement, de partir avec 10 interprétations différentes de la 9e symphonie de Beethoven, que j'écoute tout seul, pour essayer de savoir quelle est la meilleure des 10. Oui, ça me plaît toujours autant qu'il y a 50 ans.
Et moi, je peux faire ça avec le Coca Light et le Coca Zero. Voilà, c'est un peu moins chic.
Thank you.
Daniel Templon, le premier choc lyrique, c'était Parsifal de Wagner, dirigé par Horst Stein au Palais Garnier. Vous aviez 22 ans, vous y êtes retourné 3 fois, et votre choix pour l'émission, c'est L'Or du Rhin de Wagner, mise en scène par Patrice Chéreau, dirigé par Pierre Boulez. Là, on l'entend interprété par la soprano Carmen Repel. C'est donc le prologue de la tétralogie de Wagner que vous avez vu à Bayreuth en vous faisant passer pour le critique musical d'Art Press.
Absolument. Donc, quand on entend ces premiers chants des filles du Rhin, on est parti pour 14 heures de folie.
Ah oui, ça ne vous fait pas peur, le temps long?
Non, non, je ne sais plus, un critique musical disait autrefois, mais pourquoi Wagner n'a pas écrit 3 tétralogies? Donc c'est le monument de toute l'histoire de la musique vocale. Et beaucoup de gens restent encore interrogatifs devant la musique de Wagner, mais ce n'est pas ennuyeux un quart de seconde. Il faut se laisser porter par la vague, même si ce n'est pas une vague marine et que c'est le fleuve qui est le symbole même de l'histoire de l'Allemagne, hein, le Rhin, et tous les fantasmes qu'on a autour du Rhin. Mais alors, oui, vous avez raison de parler de cette tétralogie, puisque je suis allé effectivement à Bayreuth, c'était le centenaire, c'était Pierre Boulez, et je suis allé le revoir 3 fois. Et comme 90% des gens, si ce n'est 99% des gens, j'ai hurlé en ayant vu la mise en scène de Chéreau. Parce que le Rhin était transformé en un barrage de béton. Le rocher de Brunhilde, c'est l'île des morts de Böcklin. Et surtout, alors ce qui avait choqué le plus les gens, c'est que Wotan était en smoking. Donc on n'était pas habitué à ça. Il n'y avait rien sur la scène. Il n'y avait que des jeux de lumière, plus un siège, une lance, etc. Et Chéreau arrive et il provoque le scandale. Donc, je suis un peu déçu. Je suis retourné une deuxième fois et une troisième fois. Et naturellement, au bout de la troisième fois, il y en a eu 5, hein, cycles. Et c'était du délire. À la fin, la 5e année, c'était vraiment, il était acclamé comme le plus grand des vainqueurs et le plus grand des metteurs en scène. Voilà. Donc, ça reste un des grands souvenirs de ma vie et que j'aimerais faire partager, comme mon amour pour la peinture, à ceux qui me font confiance.
Jusqu'à vos 20 ans, vous n'aviez jamais poussé la porte d'une galerie ou d'un musée. Et puis finalement, vous êtes entré au Musée national d'art moderne de la ville de Paris, où figuraient notamment Les Capétiens partout de Georges Mathieu. Aviez-vous des complexes, puisque vous vous êtes fait tout seul?
Oui, mais mon père était, pour les anecdotes comme ça, était fonctionnaire à la mairie de Bois-Colombes, dans la banlieue parisienne. Il y est entré en 36, il a fait 4 ans de captivité, captivé à Dunkerque, et puis il est revenu en 44. Et donc, les familles françaises qui viennent de province, les hommes et les femmes qui se rencontrent à Paris, qui se marient, et ça donne des Parisiens, mais ce n'est pas des gens de culture. À l'époque, il fallait d'abord gagner sa vie pour se loger et manger. Hein. Aujourd'hui, on a le pass à 30 euros pour le centre Pompidou. Les temps, heureusement, ont bien changé. Tout le monde aujourd'hui peut rentrer dans le cercle de la culture s'il en a envie. Ce n'est pas une histoire d'argent.
Et les galeries sont gratuites, je le rappelle.
Exactement.
Comme les bibliothèques municipales.
Donc, comment ça s'est passé? Parce que l'anecdote, en quelques phrases, je me retrouve instituteur à Nanterre, je rencontre un garçon de mon âge qui avait 20 ans et que j'ai rencontré quand on était au lycée à Courbevoie.
Daniel Abadie?
Il y avait Daniel Abadie, un autre garçon qui a disparu maintenant, qui s'appelle Patrick Dan. Abadie, alors j'en parle d'Abadie parce que c'est quelqu'un qui a compté beaucoup pour moi, évidemment, en tant qu'ami, mais aussi pour la culture, pour Paris, pour l'art. Il a travaillé au Centre Pompidou, mais il a surtout été après directeur du Jeu de Paume pendant au moins 10 ans. Il a eu un programme exceptionnel. C'est-à-dire qu'il a montré au Jeu de Paume, dans un petit espace, pas du tout commode, pratique, des grandes expositions que le Centre Pompidou n'a pas voulu faire. Donc ça, je veux lui rendre hommage, là, Daniel Abadie.
Vous aviez une revue de poésie avec lui et avec votre ancienne compagne Catherine Millet.
Oui, alors, elle était aussi de la partie, c'est-à-dire que on s'est rencontrés exactement en 1966, on s'est mis ensemble, en ménage, disait-on, en 1966, et l'aventure a duré pendant 10 ans, mais ça nous a permis de créer Art Press. Donc, en 72. Mais cette histoire de la révélation, alors, ça existe, c'est-à-dire cette espèce de coup de foudre, d'être allé dans ce musée d'art moderne, musée national d'art moderne, bien sûr, et de rencontrer un tableau, Georges Mathieu en l'occurrence, qui m'a tout de suite fasciné. C'était en haut des marches, sur la droite, quand vous rentrez. Et pourquoi Georges Mathieu ? Bon, vous essayez de comprendre toujours le pourquoi. Cette espèce il y a une certaine violence chez Georges Mathieu, de brutalité, mais de dynamisme surtout. Voilà. C'est de la peinture en mouvement. D'ailleurs, quand on le voit, il a été filmé en train de peindre, c'est de la peinture en mouvement. Et c'est certainement ça qui m'a plu, plus le fait que la couleur est assez étonnante aussi. La couleur qui sort du tube, hein, c'était pas un coloriste. Bon. Et donc, c'est ma première rencontre.
Alors, il y a quelque chose que j'ignorais, mais la fameuse couverture de La vie sexuelle de Catherine M, où on voit une sublime photo d'elle nue, c'est vous qui l'avez prise.
Elle est de moi, j'ai demandé à l'éditeur, enfin de Catherine, qu'elle corrige la chose en écrivant à l'éditeur, que c'est vraiment moi qui ai pris cette photo.
Dans votre chambre de bonne de 12 mètres carrés.
Au 68 rue Bonaparte, exactement. Dans la chambre de bonne que nous avons occupée pendant 5 ans. Notamment au moment des événements de 68.
Alors, vous partiez en voiture sans cesse, et le vrai choc, c'était à la Documenta de Cassel. Hein,
voilà, ça c'est
de
aussi un événement important. C'est-à-dire, on est intéressant quand on parle, quand on a une portée générale. C'est-à-dire que parler de 68, Cassel évidemment, je pense que s'il y a une date qu'on doit retenir pour ceux qui s'intéressent à l'art contemporain, c'est le moment du changement. C'est-à-dire qu'on c'était déjà là. Mais c'est là où on s'en aperçoit en grand. La Documenta, c'était la Documenta 3, donc c'était tous les 5 ans à l'époque. Il y avait eu les impressionnistes abstraits, etc. Et là, en 68, donc j'avais ouvert ma galerie depuis 2 ans dans la cave de l'Antiquaire, naturellement étant aux lettres françaises.
Alors un petit mot sur Aragon aussi, puisque vous l'avez fréquenté quand même.
On ne parlait que de la peinture abstraite de l'école de Paris. D'ailleurs, les conflits entre les abstraits et les figuratifs, ceux qui faisaient la peinture politique et ceux... Bon.
Vous dites que tout le monde aime la peinture figurative, mais qu'on a peur de passer pour ringard ou d'avoir mauvais
goût.
C'est
exactement ça. Il y a encore, aujourd'hui, des institutions nationales qui évacuent presque systématiquement la peinture dite figurative. Je ne les nommerai pas, mais ceux qui le savent... il y a même des prix d'art contemporain qui excluent quasiment systématiquement la peinture figurative. Et il serait quand même un peu temps que cela change, parce que nous sommes démodés depuis très 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 longtemps. Il n'y a qu'en France où on a classifié, hiérarchisé les valeurs entre l'abstrait, le figuratif, l'objet, la photo. Non, toutes les formes d'expression en art sont bonnes, il y a les bons et les mauvais artistes, je caricature, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Peu importe, Rothko c'est totalement abstrait, mais c'est absolument fascinant, c'est fabuleux. Vous pouvez mettre Lichtenstein en face, c'est Warhol ou c'est Rothko. Il n'y a pas de vérité en art, c'est tout. Il faut bien l'admettre, même aujourd'hui, et surtout en France.
Et Aragon ? Un petit souvenir d'Aragon, bref.
Donc, j'allais aux lettres françaises toutes les semaines, j'ai fait ça pendant 2 ans. Il y avait un critique d'art qui s'appelait Georges Boudaille, qui était les communistes à l'italienne, quoi. Bon, on allait jouer au flipper ensemble, il avait 20 ans ou 25 ans de plus que moi. Non, mais c'est un beau souvenir, les lettres françaises, parce que j'ai vu ce que c'était d'abord que la presse, j'ai vu comment les ouvriers de la presse travaillaient à l'époque, parce que c'était l'imprimerie rue du Faubourg Passionnaire, où on imprimait l'Humanité.
Et vous ne voulez pas parler d'Aragon ?
Et donc, Aragon, je lui ai adressé la parole une fois, mais c'était dans ma galerie de la rue Bonaparte. Parce que... ce jeune critique d'art qui m'a fait entrer dans le circuit, il avait 2-3 ans de plus que moi, mais il était déjà dans le circuit, il écrivait déjà dans les lettres françaises, m'a présenté des jeunes artistes que j'ai choisis pour ma première exposition en 1966.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Daniel Templon, nous sommes au milieu des années 60. Votre première galerie est la cave d'un antiquaire. Vous organisez des expositions. Et en 69, il y a la fameuse exposition de Michel Journiac. Enfin, exposition performance. La messe pour un corps, où l'on dégustait des tranches de boudin confectionnées avec son sang.
C'est ce qu'il nous a dit.
Vous ne l'avez pas fait ?
Et je pense que, bah, de toute façon, je n'étais pas là au moment où il a confectionné ce Bouddha avec son propre sang, mais je crois qu'il était assez fou pour l'avoir fait. Et c'est vrai que rétrospectivement, ce qui semblait être une espèce d'exposition gadget, elle a laissé une trace. Il faut dire que l'idée est très forte.
Oui.
Hein, personne n'a osé faire ça avant lui, après lui, je ne sais pas. Et que, autant que je m'en souvienne, il y a des photos de cela, les gens étaient pris par cet événement. Bon, une messe dans une galerie avec un artiste qui, bon, au lieu d'une hostie, donne à, pour la communion son propre sang. Alors, tout y était. Moi, je n'ai pas osé goûter ce boudin, mais Catherine Millet, oui. Et bon, ça prouve au moins qu'elle était audacieuse.
Oui.
Oui, j'avais commencé par être ami des peintres à Paris déjà avec les surréalistes. Et j'ai continué cette idée de connaître les peintres, ces êtres héroïques, n'est-ce pas, que je considérais héroïques. Et comme ça, en les connaissant, évidemment, j'ai suivi leur travail.
Mais qu'est-ce qui vous pousse à être l'intime des peintres ? Pourquoi est-ce que vous êtes si bien à leur contact ?
J'aurais aimé être l'ami des écrivains, vous savez. Je n'aurais rien demandé de mieux que d'être l'ami de Proust ou de Gide ou de ces gens-là. Enfin, d'être en contact avec les gens qui produisent la littérature, qui produisent la peinture. Enfin, c'était ça. Comme moi-même, je n'étais pas ni écrivain ni peintre, je voulais au moins faire partie de cette ambiance. Alors c'est comme ça que vraiment c'est ça l'explication principale de mon développement ultérieur, n'est-ce pas ?
Daniel Templon, en 1971 à New York, vous rencontrez le marchand Leo Castelli, découvreur du pop art et promoteur du minimalisme américain avec lequel vous commencez à travailler, qui deviendra votre ami. On l'entend sur France Culture en 58 au micro de Jean Dève. Que vous a-t-il appris ?
Je suis allé à New York en 72 pour la première fois pour rencontrer Donald Judd, le grand sculpteur américain minimaliste. Je suis allé dans son atelier et il m'a dit « Tu veux m'exposer ? Très bien, mais j'ai une galerie qui s'appelle Léo Castelli, donc tu vas voir mon marchand. » Je suis allé voir notamment Léo, à la 77e rue à l'époque. Il l'a gardé jusqu'à la fin de ses jours d'ailleurs. Et c'est une rencontre heureuse, des rencontres qui changent votre vie. Alors Léo est d'origine à la fois italienne et hongroise, il est né à Trieste. Sa première femme, Ileana Zonabend, qui a été une des grandes marchandes américaines, elle d'origine roumaine. Il divorce après-guerre, il épouse en seconde noce une Française qui était plus ou moins étudiante, fille au pair, et bon, c'était une rencontre heureuse, ils se sont mariés, etc. Donc il avait un lien fort avec la France, il y a habité avec Ileana Zonabend avant-guerre, il a essayé d'ouvrir une galerie, enfin il a ouvert une galerie, mais seulement pendant 3 mois en 39, il était obligé de fermer forcément, au moment de la déclaration de guerre, et peut-être le fait de rencontrer un Français et de faire ce que lui aurait aimé faire à Paris a facilité un peu la rencontre. Et je pense que c'est devenu un véritable ami, puisqu'il m'a vraiment aidé à mes débuts, et que chaque fois que je lui demandais « Oh, j'aimerais exposer Andy Warhol », il me disait « Viens choisir ». Liechtenstein, viens choisir. Rauschenberg, viens choisir. Frank Stella, viens choisir. Donc ça, c'est une grande chance que j'ai eu dans la vie.
Et vous ne les vendiez pas, vous ne les vendiez pas,
ah non,
à part un Warhol.
On vendait rien à l'époque. C'est ça que les gens ne peuvent pas comprendre. Et c'est pour ça que je peux être un peu virulent vis-à-vis de notre système politique et économique. Bon. Mais je reviens sur Léo 30 secondes, sur cette relation amicale. Parce qu'il avait une maison à Castellaras, à côté de Mougins, et on se voyait pendant 20 ans, on a passé tous nos étés ensemble. C'est pour ça que je veux insister sur ce lien purement amical, en plus d'être professionnel ou l'un étant l'autre.
Je ne suis pas contre l'art, je trouve que l'artiste doit apporter du nouveau, et qu'aujourd'hui, l'art est devenu une mayonnaise, c'est-à-dire, il n'y a pas un petit patelin qui n'a pas sans la culture. On a ce qu'on appelle la culturite. La culturite, c'est s'occuper de la culture, 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 culture. Moi, je ne suis pas contre la culture, je trouve qu'il n'y a pas de peuple sans culture, et la culture est nécessaire. Par contre, je trouve que l'idée d'un artiste est devenue plutôt un petit professionnel, il devrait chercher du nouveau, et où est passé le nouveau ? Il n'y a pas de nouveau. Le nouveau n'est plus nouveau. Donc, en fait, je me sens mal à l'aise dans le rôle de « regardez-moi, s'il vous plaît, je suis artiste, je fais ceci, je fais cela ».
Mais alors, vous savez à quoi, vous, Ben ?
Ça, c'est une bonne question, hein ? D'accord, je sais à quoi. À chercher la vérité. Quelle vérité ? Je ne la sais pas. à me poser des questions. Voilà, je sers à me poser des questions. Et j'aime le doute.
L'artiste Ben, en 2016, sur France 3, interviewé par Olivier Chartier de Lègue. Daniel Templon, de retour des États-Unis, vous faites étape à Nice où vous le rencontrez. C'est un artiste qui a disparu en juin 2024. C'est l'un des premiers que vous avez représenté. Vous avez monté avec lui 15 expositions et vous vouliez dire un mot sur lui dans l'émission.
Bien sûr, c'est le type le plus génial que j'ai rencontré. Et là encore une fois, puisque je suis dans la petite séquence reproche, pourquoi le Centre Pompidou n'a pas fait une rétrospective grandiose.
C'est votre reproche récurrent, ça, contre le Centre Pompidou.
J'ai beaucoup de choses à dire sur le Centre Pompidou.
Pourtant, ils ont fait Gérard Garouste sur votre insistance.
Je dois dire que ça a mis 10 ans, mais j'y suis arrivé, c'est ça le
Mais même Gérard Garouste vous disait arrêtez de les appeler, vous allez les lasser.
Oui, parce que Gérard est un type bien élevé, moi je suis un
pas
peu...
Pas vous
Je suis bien élevé, mais je dis tout ce que je pense, presque. Mais Ben, c'est un homme fabuleux. Je comprends pas qu'on n'ait pas, depuis maintenant 60 ans et plus, parce que, bon, en tout cas ces 10 ou 15 ou 20 dernières années, fait ce qu'il fallait pour mettre en lumière un type exceptionnellement génial. Tout ce qui est des réflexions sur l'art, c'est de la sociologie de l'art. Mais c'est magnifique, c'est pas un peintre, mais on s'en fout qu'il soit pas peintre. Et c'est une des personnalités qui aura compté pour nous dans ce pays, et un peu à l'étranger, pour réfléchir sur la nature de l'art. Quand il dit, faut faire du nouveau, faire du nouveau. Dans cette séquence-là, il revient sur l'idée même de nouveau. Parce que là, on rejoint Garouste qui dit, tout a été fait. Et Garouste a mille fois raison. Garouste est un admirateur de Duchamp. Il a bien lu Duchamp, et il a bien compris Duchamp, et Duchamp dit « la peinture est morte ». Or, dans les entretiens avec Pierre Cabanne, 1968, Duchamp dit « oui, la peinture est morte, mais elle peut revenir dans 50 ans ». 50 ans, c'est maintenant. Mais personne ne sait ça. Et quand je le dis, on me regarde. Bon, mais lisez-le, c'est Duchamp qui le dit. La peinture est revenue. La peinture, c'est comme l'écriture, c'est éternel. Il y a la pensée et il y a la main. Alors la main, elle écrit ou elle peint. Bon, en tout cas, j'insiste un peu sur Ben, parce qu'il faudrait faire une immense exposition qui explique en quoi c'est un personnage essentiel de notre époque. Et je ne parle pas en termes de marchand, puisque notre métier, c'est de vendre les œuvres que les artistes nous confient. Ben n'a aucune cote, mais ce n'est pas le problème. Ce qui compte, c'est sa pensée, comme celle de Marcel Duchamp. Et dans cette histoire de nouveau, Ben revient sur le concept de nouveau en disant « il n'y a plus de nouveau possible ». Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ?
Alors, je ne sais pas.
Non.
Et alors, tout à l'heure, on parlait de Journiac et du boudin fait avec son sang. Il y a une autre exposition que vous avez organisée qui a choqué. Et j'aimerais bien savoir pourquoi. Vous l'avez exposée 2 fois dans les années 80. C'était les nus de Helmut Newton.
Ah oui. Helmut Newton. Bon, tout le monde est fasciné par Helmut Newton. Ah, c'est oui. Quand même un des plus grands photographes de la moitié du XXe siècle. Bon. Or, Newton a été le premier à faire des photos en grand format, c'est des tirages de 2 mètres de hauteur. À l'époque, il n'y avait pas de machine pour le faire. Il l'a fait faire d'ailleurs, même pas aux États-Unis, c'était à Düsseldorf. Et quand j'ai vu ces nus, immédiatement, je lui ai dit, je les expose. Bon. Et ça lui a fait extrêmement plaisir parce qu'il ne pensait pas qu'un photographe pouvait intéresser, 81, pouvait intéresser le grand public. Bon. Or, on a exposé ces photos encadrées de 2 mètres de hauteur. Et naturellement, il n'y avait pas beaucoup de monde dans les galeries à l'époque, mais tout le monde est venu voir parce que c'était extraordinaire. Et je pense que Newton est dans l'histoire de la photographie contemporaine, sans aucun doute. Lui-même ne se mettait pas du tout dans la situation d'un artiste. Il était un photographe, mais pas un artiste. La preuve, c'est que quand je disais, bon, il y a quelqu'un qui veut acheter ce grand nu, qu'on a d'ailleurs jamais vendu, mais quelqu'un voulait au départ. Ça coûtait des prix tellement bas aujourd'hui que ça en est même ridicule par rapport à ce que vaut la photographie, aujourd'hui. Je dis, mais c'est déjà encadré. Comment tu vas faire pour les signer ? Mais il me dit, j'ai pas besoin de les signer. Mais je dis, si, c'est devenu un objet commercial à partir du moment où il n'avait jamais vendu une photo de sa vie à l'époque. Hein. Alors, il va falloir démonter, etc. Il dit, non, je te ferai un certificat. Donc, il ne croyait pas que ces photos allaient pouvoir devenir des objets de commerce.
Daniel Templon, pour vous, les artistes talentueux et ambitieux sont les plus intéressants. Et vous dites ceci, s'il ne veut pas être le meilleur, qu'il change de métier.
Ah oui, oui, c'est une phrase que j'ai dite un peu de façon provocante. Mais Ça s'appelle la théorie des candidats. C'est Armand qui racontait ça. Armand est peut-être l'artiste le plus intelligent que j'ai rencontré de tout moment. Si tu n'es pas candidat, tu ne seras jamais élu. C'est d'une telle banalité, mais c'est d'une vérité absolue. Donc, l'artiste qui ne pense pas qu'il est le meilleur, c'est pas les autres qui vont le faire devenir le meilleur. Je dis aussi, le travail de l'artiste ne s'arrête pas à la porte de l'atelier. Il y a tout un travail qui peut être totalement ennuyeux dans les soirées, dans les dîners, les réceptions, etc. Je comprends que ça emmerde les artistes, mais ils sont obligés de le faire pour leur crédibilité. À minimum, il ne s'agit pas de passer sa vie, comme certains, à fréquenter tous les vernissages de la Terre. Mais il y a ce besoin de se dire « je suis le meilleur ». Et qui peut vous juger ? Là, on ne vous juge pas sur des critères objectifs. C'est la subjectivité qui entre en jeu. L'art, ça n'est que de la subjectivité. Simplement, il faut toucher le plus grand monde. Si vous ne touchez pas le plus grand monde, vous restez un petit maître local, c'est sympathique, vous aurez bien vécu, mais vous ne serez pas au Louvre. Et le Louvre, c'est quand même l'objectif de tous les artistes du monde.
Hop, tu verras, tu verras. Tout recommencera, tu verras, tu verras. L'amour c'est fait pour ça, tu verras, tu verras. Je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts. Tu verras, tu verras. Tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, des palmiers pleins les cieux, des hivers crépitants près du chat Angora. Et je m'endormirai, tu verras, tu verras. Le devoir accompli, couché tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. Hop, tu verras, tu verras, tout recommencera, tu verras, tu verras. La vie c'est fait pour ça, tu verras, tu verras. Tu verras mon stylo emplumé de soleil, neiger sur le papier l'archange du réveil. Je me réveillerai, tu verras, tout rayé de soleil à le joli forçat. Et j'irai réveiller le bonheur dans ses draps. Je crèverai son sommeil, tu verras, tu verras. Je crèverai le sommier, tu verras, tu verras. En t'inventant l'amour dans le cœur de mes bras, jusqu'au matin du monde. Hop, tu verras, tout recommencera, tu verras, le diable est fait pour ça, tu verras, je ferai le voyou, tu verras, je boirai comme un doux et qui vivra mourra, tu me ramasseras dans tes yeux de rosée. Et je t'insulterai dans du fer brisé. Je serai fou furieux, tu verras, contre toi, contre tous, et surtout contre moi. La porte de mon cœur grondera, sautera, car la poudre et la foudre, c'est fait pour que les rats envahissent le monde. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras. Mozart est fait pour ça, tu verras, entendras. Tu verras notre enfant étoilé de sueur s'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs et revenir vers nous scintillant de vigueur. Tu verras mon ami dans les eaux de mes bras craquer du fin bonheur de se sentir aidé. Tu me verras chérie allumer des clartés. Et tu verras tous ceux qu'on croyait décédés reprendre souffle et vie dans la chair de ma voix jusqu'à la fin des mondes. Ah, tu verras, tu verras.
Claude Nougaro est le standard de ce soir, morceau de 78, Tu verras, dans la 20e heure sur France Inter. Je suis avec le galeriste Daniel Templon et voyons voir ce que vous exposez en ce moment dans différents pays.
Ce qu'on oublie, c'est que le travail du peintre et son modèle, ou le modèle et son peintre, c'est en tous les cas un protocole où la première étape, c'est la confiance. Parce que la vraie nudité, c'est la nudité de la parole. Comme vous voyez, le modèle, il ne reste plus rien. N'empêche que la matrice, c'est la nudité.
Interview réalisée par la galerie Templon de l'artiste François Rouen en mai 2024. Vous l'exposez, Daniel Templon, en ce moment à New York jusqu'au 1er mars, dans une exposition intitulée Recorda. Je crois qu'il a boudé pendant une dizaine d'années.
François Rouen, dont j'ai Marc Albert Lévin, qui écrit aux lettres françaises tout à l'heure, nous en avons parlé, m'a sur cette liste, il y avait une quinzaine d'artistes que j'ai exposés au mois d'avril 1966. Il y avait dedans Buren et François Rouen. Bon, tous deux ont fait quand même un sacré chemin. Il était à l'époque dans une galerie qui s'appelait Pierre Matisse à New York. Et notre galerie parisienne, Lucien Durand, le père de Guillaume Durand. Et j'ai eu le coup de foudre pour cette peinture très très tôt. Et puis, comme il était engagé dans une autre galerie, je ne pouvais pas l'exposer. Le temps a passé et j'ai fini par le convaincre que ça serait mieux d'exposer chez moi plutôt que chez personne ou chez les autres. Et il est venu. Et nous avons fait vraiment un bout de chemin pendant presque 20 ans ensemble et je l'ai fait mieux connaître, Cotte évidemment. Et puis après, il a eu, un moment d'égarement. Il a pensé que il pourrait très bien travailler tout seul, sans galerie. Mais c'est son caractère, il a toujours revendiqué cette autonomie, etc. Bon, il a passé 6 ans à la Villa de Médicis, en étant très proche de Balthus, on avait la possibilité de rester que 2 ans, il est resté 6 ans, etc. Donc il a une formation classique assez extraordinaire, et une haute conscience de ce qu'il est, et je pense que c'est un de nos grands peintres français, tout court, qui aura une place historique, et ça, je ne cesse de le dire à ceux qui le connaissent mal ou qui ne veulent pas faire l'effort de regarder la peinture. Parce que c'est aussi un effort souffrant. Et donc il est parti effectivement pendant une quinzaine d'années, puis un jour il s'est rendu compte que les galeries, ce n'était pas quelque chose d'inutile, ça les mettait en valeur, ça faisait un travail quotidien pour eux, et finalement ça leur servait pour être tranquille et travailler tranquille. Voilà. Donc j'ai pensé que le montrer à New York, ce qu'il n'avait pas fait depuis l'époque de Pierre Matisse, c'est-à-dire au moins 25 ans, serait très utile. Et l'exposition a vraiment intéressé les Américains. Alors bon, on ne parle pas de commerce là, mais c'est vrai que les Américains pensent qu'ils ont déjà tout chez eux, qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher en France ce qu'ils ont déjà. Ils ont tort, mais en tout cas, c'est ce qu'ils pensent.
En 2023, on m'a proposé de penser une installation pour la future gare de Saint-Denis-Pleyel, qui est dessinée par l'architecte Kengo Kuma. J'ai voulu profiter de ces années que j'avais devant moi pour m'ancrer dans la ville de Saint-Denis. C'est une ville incroyablement riche en diversité. Il y a plus de 130 cultures là-bas, mais aussi très riche en archéologie. C'est comme ça que j'ai décidé de travailler sur les Vénus préhistoriques de la période gravétienne d'il y a 30 000 à 20 000 ans, qu'on a retrouvées dans toute la partie Eurasie. Et en 2024, j'ai rencontré plein d'associations de femmes de Saint-Denis, comme Talents de Femmes, comme aussi des collèges d'Oramar, pour essayer de réfléchir à un projet collectif. On a pensé à un projet qui s'appelle La Terre qui m'est chère, à hier, pour collecter des échantillons de terre de toutes les femmes de Saint-Denis qui souhaitent participer. Et cette terre sera installée à l'intérieur, au cœur des sculptures de la gare.
C'est l'extrait d'une interview qu'on a trouvée sur le site internet de la galerie Templon. L'artiste Prune Nourry, que vous exposez, Daniel Templon, en ce moment dans l'exposition Vénus jusqu'au 1er mars à la galerie Templon Paris, Grenier, Saint-Lazare. Un petit mot sur cet artiste.
Un artiste jeune, qui aura 35 ans maintenant, qui, elle, a une ambition de réussite sans limite. Et je le souligne après ce que je viens de dire.
Oui, qui est un compliment dans votre bouche.
Mais complètement, complètement. Je pense qu'elle en a les moyens intellectuels, la capacité de travail. Je ne sais pas quelle revanche les gens qui veulent réussir ont par rapport à ceux qui préfèrent la tranquillité. Pour vivre heureux, vivons cachés. Je ne sais pas qui a raison. En tout cas, c'est un peu trop tard pour changer notre caractère à certains d'entre nous. Et cette exposition est vraiment une révélation pour ceux qui ne la connaissaient pas, une confirmation pour nous. Elle a un talent qui a convaincu même ceux qui pensaient que c'était... Bon, non, c'est cette exposition sur les femmes, le corps des femmes, la déformation physique, la maladie, la souffrance, elle le vit certainement au quotidien, mais en tout cas, elle sait le magnifier en créant des sculptures qui ont des références naturellement à la période préhistorique, mais bon, la vie artistique, la création n'est qu'un éternel renouvellement de ce qui a déjà été fait depuis les grottes de Lascaux. Hein. Bon.
Alors il y a une autre exposition qui est très attendue, mais on n'a pas le temps d'en parler, ce sera celle de Philippe Cognier, Paysages fragmentés. On arrive à la fin de cette émission, et donc j'aimerais vous poser deux questions en une. Vous ne vous définissez pas, Daniel Templon, comme collectionneur, vous avez quelques tableaux chez vous, les mêmes depuis 20 ans que vous ne vendrez a priori jamais. Alors la première question, c'est lesquels? Et la deuxième, c'est que lisez-vous en ce moment?
Oui, je ne suis pas collectionneur au sens je veux thésauriser, je veux garder ce que j'ai. Pourquoi? Je me suis posé la question souvent. Parce que des tableaux, je vis avec matin et soir. Dès que je rentre dans ma galerie, j'ai des tableaux autour de moi. Qu'est-ce que je fais le dimanche? Je vais dans les musées. Qu'est-ce que je fais souvent quand je suis en voyage? Je vais voir les autres galeries, etc. etc. Donc, j'ai pas besoin de m'alimenter de cette façon-là, puisqu'elle est déjà là. Ça y est, en ayant des tableaux chez soi, partout, en permanence, les garder, ça. Non, c'est plutôt... c'est le travail de la mise en valeur, de, je le disais déjà au début, de la mise en valeur des artistes qui me concernent, qui me touchent, en qui je crois. Je ne vais pas dire que c'est un métier qui est comme un sacerdoce, mais il y a un peu de ce côté-là.
Alors, de nom
j'aurais pu être directeur de musée, vous voyez. Bon, mais je suis entré dans une galerie, dans un local, j'ai fait une galerie, j'aurais pu être directeur de musée, parce que c'est ça qui me passionne, c'est d'organiser des expositions.
Et vous ne voulez pas nous dire un ou deux noms qu'on peut trouver chez vous et un titre de livre, histoire que je ne fasse pas taper sur les doigts pour
moi,
le journal?
J'ai Garouste, j'ai Rouen, j'ai Alberola, j'ai Cogné, j'ai Keane de Wiley, j'ai Georges Mathieu, j'ai Martin Barré, ouais, mais des gens plutôt avec lesquels j'ai une histoire.
Et que lisez-vous en ce moment? C'est la dernière question.
Alors, le dernier livre que j'ai lu, c'est Les non-dits d'un conflit, c'est-à-dire le Proche-Orient après le 7 octobre, d'un psychanalyste qui s'appelle Daniel Siboney. Et je le recommande à tous, si j'ose dire, parce qu'il éclaircit tellement, tellement de points sur la situation actuelle du monde.
Merci beaucoup, Daniel Templon. Vos galeries exposent en ce moment les artistes Hervé Di Rosa et Prune Nourry à Paris, René Wirtz à Bruxelles et François Rouen à New York. Vous représentez aussi l'artiste Chiharu Shota qui expose The Soul Trembles au Grand Palais. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Joseph Ascal et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Adèle Caglard.